Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Mon premier appel ce soir est l'appel de Daniel. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors dites-moi ce qui vous amène Daniel.
Alors, j'ai un problème avec mon fils. Mon fils a 50 ans, moi j'en ai 72.
Oui.
Il vit en ce moment avec moi parce qu'il vient d'avoir un infarctus depuis 2 mois.
Oula, c'était la première alerte ?
C'est la première, oui.
Ouais.
Bon, il se remet bien, mais il a eu un parcours très chaotique. En fait, il a perdu son père, il avait 11 ans.
Mmh.
Ensuite, il s'est marié. Il a eu une jeunesse, rien de spécial. Pas beaucoup de réussite en classe. Il a eu un nez cassé à l'école. Un prof qui lui a recassé le nez exprès.
Quoi ?
Oui. Un prof qui lui a tapé dessus exprès en disant « Tiens ton nez », alors qu'il avait déjà eu le nez cassé
dans la même école.
Passé depuis longtemps.
Oui, enfin bon.
Ensuite, il s'est marié.
Mm-hmm.
Il a divorcé 7 ans après. Et puis depuis son divorce, il s'est un peu rapproché de moi. Il a acheté une maison dans le même village que moi. Il travaille depuis toujours, d'ailleurs, il travaille depuis tout le temps. Et il a toujours été considéré un petit peu... il a toujours été seul. Parce que quand il était jeune, ses copains passaient les soirées ou leur sortie, aller boire un verre. Lui, ça n'intéressait pas. Lui, c'était la moto, les voitures, Donc, il s'est toujours trouvé un petit peu isolé. Au travail, il travaille de nuit. Mais il fait des nuits de 10 heures. Il finit le matin à 7 heures. Donc, il dort la journée, forcément.
Qu'est-ce qu'il fait comme métier ?
Il est veilleur de nuit.
Ah, d'accord.
Dans un centre informatique.
Ça aide pas à se faire des amis, ça, de travailler en horaire décalé. Hein.
Voilà. Et c'était bien un petit peu ce qui le stresse aussi. Et puis, depuis qu'il est tout seul, nous partons en vacances ensemble. Ça pose aucun problème, hein. Et voilà qu'il y a, il y a une dizaine d'années, il a rencontré une fille à Paris, une Thaïlandaise. Ils se sont vus pendant... Lui, étant divorcé, il a été très prudent. Ils ont attendu des années. Il y a 2 ans, ils ont décidé de se marier. Et elle est brusquement décédée juste avant de se marier, en fait.
Oh là là, le pauvre.
Elle a eu un arrêt cardiaque. Bon. Donc ça, il ne s'en est pas remis. Et à ce moment-là, aucun soutien... Moi, j'en ai pas eu non plus quand j'ai perdu mon mari. Aucun soutien de la famille. J'avais mes parents avant, c'était très bien. Depuis que j'ai plus mes parents, j'ai 2 frères, j'ai 2 neveux. On ne voit plus personne.
Ah.
Et ça, moi, je pense que ça... je lui dis, mais les autres, on s'en fiche. Même si c'est la famille, on s'en fiche. C'est pas grave. Ils sont comme ça, mais on les laisse. Quand ils auront des problèmes, ils se débrouilleront tout seuls aussi. Ils feront comme nous. Mais ils n'arrivent pas à l'encaisser, en fait.
Il est votre fils unique ?
Oui, ouais. Oui,
oui. Oui, donc ça restera encore le cercle.
Voilà, ça restera encore, oui.
Oui.
Alors, il a des amis, par contre, par rapport à sa copine, là, il a des amis chinois, thaïlandais, qui voyaient souvent à Paris, et que maintenant, ils sont partis, ces gens-là. Mais, par exemple, le 1er janvier à minuit, il a le texto de tous ces gens-là qui lui souhaitent la bonne année à minuit pile, alors qu'ils ont un décalage de 8 heures chez eux. Ils sont repartis en Chine, ils sont repartis en Thaïlande, ils sont repartis dans leur pays.
Mais ils l'ont pas oublié.
Mais c'est un soutien énorme. Mmh. C'est des Asiatiques, et c'est vraiment pas la mentalité des Français. Mais alors, pas du tout.
Mmh.
C'est des gens sur qui on peut compter. C'est vraiment, on voit pas ça en France en fait.
Mmh.
En France, les gens sont jaloux, les gens sont, je sais pas. Il n'arrive pas à s'y faire. Hein. Et alors, depuis cet infarctus, il a passé des tas d'examens, il n'a pas de diabète, pas de cholestérol, rien. C'est le stress qui lui a provoqué ça surtout.
Son papa est mort de quoi ?
De la grippe.
Ah.
De la grippe saisonnière, au mois de janvier.
Mm.
Et alors, son papa est mort un 12 janvier, et sa copine est morte un 12 janvier aussi.
Oui, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a un sacré phénomène de répétition dans son histoire de vie.
Oui.
Des choses liées
oui.
au cœur, des choses à date qui reviennent.
Voilà, oui. Voilà. C'est plein de coïncidences, en fait,
mm.
dans plein de choses. Alors, par moment, bon, ben, il a fait un peu de dépression. Bon, alors, les psys, les sites de rencontre, tout ça, il a eu plein d'entendre parler. Mmh. Hein, il a trouvé des amis, quelques copines, mais bon, en fait, il leur fallait un compte en banque pour élever leurs enfants, puis c'est tout. Hein, c'est tout. Bon, voilà.
Alors, heureusement qu'il est prudent, alors. Hein.
Il est très prudent. Bon. Personne de très sérieux. Alors là, il avait trouvé, d'après lui, la fille idéale, mais c'est vrai que oh, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Enfin, c'était vraiment une fille exceptionnelle, quoi. Donc là, il se trouve seul et il souffre de ça, en fait. Et alors, avec ses horaires de travail, bon, forcément, même s'il y a des sites de rencontre, bon, on fait des choses, ben, c'est la journée.
Mais oui, c'est sûr. Ouais.
Et là, il est complètement décalé, c'est-à-dire qu'il vit la nuit. Il vit la nuit parce qu'il a l'habitude d'aller travailler à 9h. À 9h, il est en pleine forme le soir. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a connu votre émission, parce qu'il m'a dit, tiens, j'ai écouté sur Europe 1 une émission qui est bien. Et depuis, on écoute cette émission tous les soirs, puisque là, il est chez moi, et que donc, on écoute cette émission tous les soirs.
Bon, ça, c'est une bonne chose.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est compliqué pour lui de se faire une vie sociale, et notamment des rencontres amoureuses, quoi.
Voilà, voilà.
Mais quand vous me disiez que c'est quand même quelqu'un de solitaire, ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi ce genre de métier avec ces horaires-là.
Il n'a pas vraiment choisi.
Non, enfin, quelque part.
Disons qu'il n'a pas eu le choix quand il a cherché du travail. Bon, ça s'est présenté comme ça. Il l'a pris comme ça au début. Et en fait, il ne s'est bien plus là-dedans.
Donc, il n'a pas du tout envie de changer.
Non, pour l'instant, non.
Parce que même s'il est en relation ensuite avec une femme, ce n'est pas évident de vivre un quotidien quand on travaille toute la nuit comme ça.
Ah ben c'était le problème de sa femme qu'il a eu d'ailleurs. Hein.
Mais oui.
Ah, voulait sortir le soir, ben oui, le soir il travaillait.
On est en décalage complet, c'est vrai que ça aide pas non plus. Mais bon, si lui c'est son style de vie qui lui convient et que
oui,
ça.
Oui.
Voilà.
Et oui, oui. Mais enfin, moi je lui dis, t'es pas tout seul à travailler la nuit. Il y a certainement bien des gens qui sont comme toi, qui travaillent de nuit, qui vivent ça. Bon, lui il le vit bien, mais ils arrivent bien à connaître quelques personnes, je sais pas. Hein.
Bah, vous me dites que les sites de rencontre, il ne veut pas en entendre parler.
Ah ben, il a essayé, mais bon, non. Il ne veut plus en entendre parler.
Il ne veut plus.
Voilà. Mais il a essayé, mais bon, c'est pas très sérieux. Enfin, ça dépend. Hein, bon.
Et la journée, ça se passe comment pour lui? Il se réveille vers quelle heure?
Ben, quand il travaille, il se couche à 8h le matin. Donc, il se lève à 3h, en principe.
Et ça lui laisse le temps de faire des choses l'après-midi, des activités?
Ben, pas grand-chose.
Pas grand-chose, c'est ça.
Pas grand-chose, hein.
Parce qu'il n'y a qu'au travers d'activités qu'il pourrait rencontrer des gens, évidemment.
Et oui, ben oui.
Peut-être du sport ou je ne sais pas, des choses.
Ben, il avait essayé de faire du karaté à une époque, mais ben, c'est pareil, c'était la journée, donc c'était la journée.
Et là, vous me dites qu'il vit chez vous encore.
Voilà.
Et comment ça se fait, ça?
Il a été malade, alors je préfère le garder, bon, le garder là, quoi.
Oui, mais il est plus malade, là, maintenant.
Il est encore en arrêt de travail. Pour un certain temps, puisque c'est au moins minimum 3. Ça fait 2 mois simplement qu'il a fait un infarctus juste avant Noël. Donc il a au moins 3 mois d'arrêt de travail.
Mais il a un chez lui quand même?
Oui.
Ah d'accord. Donc,
il n'a même plus envie d'y aller en fait. Il avait tout préparé, sa maison, tout. Il avait tout décoré. Donc il a presque même plus envie d'y aller.
Depuis ce deuil, c'est ça que vous me dites?
Oui. Oui.
Et ça, c'était il y a combien de temps?
Il y a 2 ans.
2 ans, et ça commence à être long, puis il ne s'en remet pas du tout.
Voilà, voilà. Ben oui, ça fait 2 ans. Oui.
Mais ce que j'entends, moi, c'est qu'avec vous, ça se passe bien.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de non-dit.
Il y a quelquefois un petit peu des tensions. Mais ce n'est pas grave du tout, hein. Quand il s'énerve, bon, c'est vrai que... Des fois... Mais enfin, il y a... Non, mais chez nous, chez moi, ça se passe bien. Et puis, je suis plus tranquille de le savoir là, finalement, que de le savoir tout seul.
Alors, attention à ça. Vous savez que c'est une pente dangereuse.
Oui.
Parce que d'inconscient à inconscient, vous pouvez lui transmettre aussi l'idée que vous avez du mal à lâcher, à laisser partir.
Ah non. Ah non, non. Enfin, je sais pas. Bah, il est bien parti quand il s'est marié, sans problème. Hein. Non, non. Mais enfin, maintenant, j'appréhende de le savoir seul, en fait.
Et mais c'est peut-être cette peur-là que vous pouvez aussi lui communiquer inconsciemment.
Oui, et oui. Et oui. Parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas...
Cet infarctus, il est arrivé dans quelles conditions?
Il est arrivé... ça a été brutal. Il était chez moi, il s'est levé. Il a commencé à déjeuner et tout d'un coup, il s'est arrêté, il ne pouvait plus avaler.
D'accord, donc il était chez vous, parce que quand vous me dites j'ai peur de le laisser seul, j'avais l'impression que c'était arrivé à un moment donné où justement il était seul, mais ce n'est même pas le cas.
Même pas le cas, non, il était chez moi.
Donc ça n'a pas de rapport, il peut parfaitement être seul.
Non.
Et...
Oui, d'accord. Non.
Donc c'est pas... Qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans cette situation aujourd'hui ?
Ce qui m'ennuie, c'est de le voir malheureux comme ça. Parce que c'est de le voir comme ça, malheureux. Il me dit, je suis tout seul, j'ai plus envie de vivre, ça sert plus à rien, j'ai plus, voilà, t'aurais dû me laisser, j'aurais pété à l'hôpital, comme ça, ça aurait été fini, voilà, j'aurais été rejoindre ma copine, et puis c'est tout, voilà. De temps en temps, il réagit comme ça.
Est-ce qu'il a toujours, parce que là, dans ce que j'entends, il y a quelque chose de l'ordre de la dépression, hein, qui
oui,
se met en place.
Oui.
Est-ce que c'est un terrain qu'il avait déjà avant, ou c'est vraiment depuis ce décès de sa fiancée ?
Il l'a eu un peu avant. En fait, il l'a eu un petit peu quand il s'est marié, en fait. Quand il s'est marié, il a eu un problème après avoir fait un vaccin contre l'hépatite virale. À la suite de ce vaccin, il a eu des problèmes. Il craignait la chaleur, mais alors énormément la chaleur. Il transpirait à la moindre... il était vraiment très très mal. On a fait tous les magasins, tous les hôpitaux de France. On a été à Paris, on était à Saint-Étienne, on était partout. Et il y a un professeur à Paris, finalement, qui nous a dit, c'est les résultats du vaccin, en fait.
Ça pourrait être des effets secondaires indésirables de ce vaccin.
De ce vaccin, exactement. Donc ça, il a eu des... Ensuite, il a vu un psy, il a eu un... Il a eu des antidépresseurs pendant 10 ans et au bout de 10 ans, il a dit « Moi, je veux plus de ça ». Donc, il a réussi à se débarrasser de ce traitement, en fait.
Et oui, mais pas de la dépression, visiblement. C'est ça qui m'a mis dans ce que j'entends. Parce que...
Peut-être pas trop.
Le fait qu'il se renferme comme ça de plus en plus, c'est pas un bon signe.
Oui, mais quoi faire ? Lui, il voulait absolument plus prendre tous ses médicaments. D'ailleurs, depuis, il se trouve mieux. Il se trouve beaucoup mieux physiquement, disons.
Oui. Est-ce qu'au moins, parce que vous savez que pour le cerveau et pour la sérotonine qui est très importante dans la dépression, est-ce qu'il voit suffisamment de la lumière ? Parce que quand on travaille la nuit comme ça, c'est aussi un des problèmes, c'est qu'effectivement on dort toute la journée, donc de fait, volet fermé,
oui.
Rideau fermé, et le cerveau manque énormément de lumière.
Mais ça, c'est possible.
Donc ça serait bien, si c'est tout bête, mais pensez à lui acheter une lampe en luminothérapie.
Ah oui.
Ce sont des séquences qu'on fait pendant 10, 15 ou 20 minutes par jour et qui aident vraiment beaucoup. Ça se fait en période d'hiver quand les gens sont un peu dépressifs parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Mais lui, malheureusement, ce n'est pas une question de saison, c'est qu'il ne voit pas assez la lumière. Quoi. Ça peut jouer aussi.
Voilà.
Ça peut jouer aussi.
Voilà. En plus, en ce moment, avec le couvre-feu à 6h, à 18h, vous voyez...
C'est vrai que ça aide pas. Ouais.
Il sort, il met le réveil le matin pour pouvoir prendre le temps de faire sa toilette et de sortir. Parce que s'il faut être rentré à 18h, c'est pas possible en se levant à 16h.
C'est vrai que pour lui, c'est encore pire. Daniel, vous restez avec moi, on marque une petite pause et je vous récupère tout de suite. Merci.
Oui.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Daniel.
Oui.
Oui, cette histoire de lumière, c'est une petite chose, mais l'air de rien, c'est une petite chose qui a beaucoup d'importance quand on est un petit peu tristoun comme ça. Un petit peu. Alors ça va pas régler une dépression, évidemment, mais ça aide quand même beaucoup.
Oui.
L'air et la lumière, notre cerveau en a besoin terriblement dans des périodes comme ça et on a tendance à l'oublier, beaucoup trop.
Oui.
Donc déjà, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec... lui offrir ou lui conseiller de faire ça.
Oui, mais c'est peu de choses.
L'oxygène, c'est effectivement aller marcher, aller respirer là où il y a de la verdure, des arbres.
Oui. On le fait aussi.
Ça, c'est important. Et à ce moment-là, sur un plan plus psychologique, est-ce que ce petit garçon qui a perdu son papa à l'époque, c'est quelque chose qui a été digéré, ça ?
Je pense que non.
Mais oui.
Je pense que non. Il s'est toujours senti différent. Il s'est toujours senti différent juste après. Il pouvait plus dire mon papa fait ci, mon papa fait ça. Ça lui a manqué beaucoup, je pense.
Est-ce que vous l'avez senti changer après ce départ, ce décès ?
Changer. C'est surtout le changement autour de nous, en fait. Le changement, personne ne l'a soutenu.
Mais ça a dû forcément l'impacter beaucoup, ça.
Voilà. Ouais. Il a des cousins, mais qui se fichent complètement de ce qu'on devient. Il a... Il a des cousins. Personne ne demande de ses nouvelles. Personne. Déjà, on l'a un petit peu jalousé quand il a trouvé du travail parce qu'il était fonctionnaire. Et alors, hein? Bon, donc déjà, il y a eu, je pense que de la jalousie mal placée, je sais pas, enfin bon. C'est des familles, bon, il n'y a pas que chez nous, hein, je vois bien, mais je trouve ça dommage quand même.
Alors la première urgence, c'est de s'éloigner des gens toxiques, hein, surtout quand on ne voit pas très bien.
Exactement, mais c'est ce que je lui dis.
Ça, c'est essentiel.
C'est ce que je lui dis, c'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs, avec ma belle famille, et c'est ce que je lui dis. Mais bon, je pense que ça le marque quand même, ça. Parce que lui, il est très à l'écoute des autres, en fait.
Ce qui est très bien.
Il n'y a pas longtemps, il a téléphoné, justement pour votre émission, une dame qui cherchait une dame qui avait sa maman, je crois, qui avait une maladie d'Alzheimer, ou je ne sais plus, qui était en région parisienne, qui voulait connaître un neurologue. Bon, lui, il se trouve qu'il en connaissait un par l'intermédiaire de ses amis. Il a téléphoné pour donner son adresse. Et cette dame lui a retéléphoné après, pour le remercier.
Bon, c'est gentil, c'est qu'il n'est pas si fermé que ça, finalement.
Ah non. Et non, il rendra bien service comme ça aux autres, mais en fait, personne ne lui rend service à lui, quoi, voilà. Et ça, il en souffre.
Et vous expliquez ça comment? Que tout le monde, à ce moment-là, lui tourne le dos?
C'est pas qu'on lui tourne le dos, c'est des gens, la famille, c'est des gens, je vous dis, un genre de jalousie. Un genre de jalousie au départ. Ses cousins étaient jaloux, ben, ses copains, c'est pareil, ses copains, ils ont des problèmes avec les mômes, les femmes, et ben lui, il n'y en a pas, donc voilà, on le jalouse. Bon.
Oui, peut-être, mais... je ne sais pas. Ça paraît bizarre de jalouser quelqu'un qui n'a ni femme ni enfant, justement.
Mais c'est ça,
Il n'y a rien à jalouser là-dedans.
Ah ben non.
Bon, quoi qu'il en soit, lui, il faut vraiment qu'il se préserve et qu'il s'éloigne des gens qui sont pas capables de lui faire du bien.
Exactement, mais c'est ce que je lui dis. Mm. Mais bon, c'est dur à... Enfin, je sais pas.
Mais surtout là, si j'entends que ce deuil du papa n'a pas été fait, et c'est un deuil qui a probablement été réactivé par la souffrance de l'autre deuil.
Oui.
C'est toujours comme ça, quand on perd quelqu'un de cher une deuxième fois, ça réactive la première perte.
Exactement.
Et c'est peut-être là qu'il faut aller l'aider.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à en parler avec lui?
Oui, on en parle, oui.
Il n'y a pas de sujet tabou à la maison?
Ah non, pas du tout.
Bon.
Ah non, pas du tout. Non.
Et comment il est quand il parle de son père ou de son ex-fiancé? Est-ce qu'il arrive à en parler sereinement ou est-ce qu'il est un peu submergé par ses émotions?
Non, on en parle sereinement. Non, on en parle sereinement. Il me dit toujours ce qu'il faisait avec elle. Parce qu'il se retrouvait beaucoup à l'hôtel. Enfin, il venait en vacances ici. Lui prenait des vacances aussi. Il se retrouvait aux quatre coins de la France, quoi. Donc, on en parle même encore. Oui, il a des très bons souvenirs, donc on en parle gentiment, voilà.
Et concernant son père, qu'est-ce qui vous fait dire que le deuil n'est pas fait, alors?
Ah ben, je sais pas, mais j'ai bien l'impression, je sais pas pourquoi. Maintenant, il est peut-être fait, mais quand même, je sais pas.
Et pour vous, est-ce qu'il est fait, ce deuil-là?
Oui.
Oui,
ben, oui. Oui, j'arrive à en parler maintenant. On met des années. On met des années pour en parler sans trop d'émotion, quoi. Mmh. On met des années.
Et comment a été votre vie après cette perte?
Ben, la mienne, écoutez, moi je travaillais, donc j'ai passé sur plein de choses en fait. Hein. J'ai continué à travailler, j'ai fait ce que j'ai pu pour lui, quoi, voilà. Mm-hmm. Puisqu'il était tout seul. Bon, j'avais encore mes beaux-parents à l'époque. On a commencé, même avant, quand mon mari était là, avec mes beaux-parents, on n'était pas très proches. On n'était pas très proches et en fait, on s'est perdu de vue après. On s'est perdu de vue complètement hein, parce que mes beaux-parents, c'était des gens... Mon beau-père était gentil, mais ma belle-mère, c'était quelqu'un de toxique, comme vous dites. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Hein.
Est-ce que vous avez eu un autre compagnon après?
Non. Non.
Pourquoi? Non. Pour quelle raison?
Parce que j'ai pas trouvé personne d'idéal, en fait. Hein. les quelques personnes que j'ai rencontrées, ben, je gâtais trop mon fils. Bon, ben, j'étais désolée, mais il fallait quand même que je m'occupe de mon fils avant de m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, non, j'ai trouvé personne. Mais bon, ça n'a pas été un problème pour moi, en fait. Hein.
Et vous avez des amis, des activités ?
Des activités, très peu. Mais enfin, bon, j'ai une maison, j'ai un jardin. Je m'occupe, je suis en retraite maintenant. Non, j'ai pas de problème de ce côté-là.
Non, je ne s'agit pas du tout de pointer des problèmes, il s'agit de réfléchir à un mode de fonctionnement qui est un peu aussi en boucle intérieure.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup d'ouverture non plus vers l'extérieur.
Pas trop.
Et les chiens ne font pas des chats.
Voilà, oui. Non. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai.
Et finalement, quelque part, vous êtes il est en miroir avec vous et vous êtes en miroir avec lui.
Et c'est possible.
Et c'est peut-être là qu'il va falloir essayer de lui donner un autre schéma de fonctionnement.
Ben oui, mais comment faire ? C'est ça le problème. Hein ? Comment faire ?
Ben, peut-être soit vous, en vous ouvrant peut-être aussi à des amis, à d'autres choses à l'extérieur, et pas simplement à votre maison et votre jardin.
Oui.
Si ça peut vous faire du bien, évidemment, ça lui fera du bien à lui aussi de voir que vous avez cette dynamique-là, cette énergie-là.
Oui,
c'est
oui.
Une énergie d'ouverture et pas de fermeture.
Oui, oui.
Et puis en ne le gardant pas trop longtemps à la maison, quand il va aller mieux là maintenant, qu'il prenne son élan.
Ah oui, non, mais bon, oui. Mais de toute façon, il part aussi tout seul. Hein. Il a été à Paris il n'y a pas longtemps, il est allé à l'hôtel tout seul. Bon, bah, il part un petit peu quand même tout seul. Hein. Oui,
bah, j'espère bien 50 ans quand même.
Oui, bah, justement, oui. Si,
parce que finalement, je me rends compte au fur et à mesure de notre conversation que quand vous parlez de lui, c'est un peu comme si vous parliez d'un garçon qui est très jeune encore. Et pas d'un homme qui a 50 ans. Quoi.
Ah bon ? Ah bon, ben peut-être. Hein.
C'est votre côté maman poule, probablement.
C'est possible, oui. C'est possible, ben oui.
Mais le poussin, il a grandi, hein, je crois.
Oui. Et oui. Ben oui.
Pourquoi est-ce que c'est pas lui d'ailleurs qui m'a appelé ce soir ?
Eh ben parce que il a pas osé, hein, comme vous l'avez dit dans votre début d'émission, là, il n'osait pas. Il a pas osé. Puis moi je lui dis, écoute, cette émission, ben c'est tellement bien. Pourquoi tu n'appellerais pas ? Ben, il a pas vraiment osé.
Et s'il avait osé, vous pensez qu'il m'aurait dit quoi ?
Comment ?
S'il avait osé m'appeler, il m'aurait dit quoi ?
Je sais pas. La même chose que moi, je pense. La même chose, qu'il est seul et qu'il se sent trop seul. Voilà, c'est ça son problème. Il se sent trop seul.
Est-ce qu'il aurait aimé qu'on lance une demande sur l'antenne ce soir, qu'on dise dans quelle région il est et s'il y a des femmes qui sont intéressées, qu'elles puissent nous laisser leurs coordonnées pour lui ?
Oui. Ah ben oui, je pense que oui. Hein. Oui. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein.
Alors, dans quelle région est-il ?
Le Puy-de-Dôme.
Puy-de-Dôme, est-ce qu'on peut avoir son prénom ? Ça sera quand même plus facile pour
lui.
Oui, les...
Christophe.
C'est Christophe, d'accord. Christophe oui. Dans le Puy-de-Dôme, il a une cinquantaine d'années, vous m'avez dit, 50 ans.
Oui.
Donc j'imagine qu'il serait intéressé par des femmes qui ont dans ces eaux-là, entre 40 et 50.
Voilà, oui, bien sûr.
Quelles sont ses qualités ? Parce qu'il faut qu'on donne envie aussi aux femmes d'appeler.
Oui, ses qualités, alors il est très, comment dire, presque maniaque, hein. Très propre, il range tout, il est très organisé. Mmh. Voilà, il est très organisé, pour ça, il n'aime pas du tout les gens négligés, les gens qui laissent traîner tout dans la maison. Lui, il est très organisé, il range tout. Voilà.
Est-ce qu'il a bon caractère ?
Il n'a pas mauvais caractère, non. Non, il est... Oui.
Il est gentil ?
Il est gentil, très.
Bon, bah écoutez, s'il y a des femmes qui sont dans cette région, qui ont entre 40 et 50 ans et qui sont sincères et honnêtes...
Voilà. Pourquoi pas ? Oui.
Dans ces cas-là, on fera le relais.
Voilà.
Et puis on vous laissera leurs coordonnées.
Souvent, il me dit, oh, mais je trouverai personne ici, parce que les filles, c'est n'importe quoi. Il préfère, c'est vrai, les gens, les Asiatiques, tous ces gens-là, qui ont une autre mentalité, en fait, que les Français. Hein.
Bah alors, tant mieux si jamais on a des jeunes femmes ou des femmes asiatiques qui nous écoutent et qui sont intéressées, pourquoi pas ?
Oui. Non, mais c'est vrai que ces gens-là ont une mentalité vraiment différente.
Qui ont l'air de lui convenir, en tout cas.
Oui. Bon. Mais oui. C'est vrai, oui.
Bah écoutez, on va souhaiter que ça fonctionne, qu'il y ait des gens qui appellent pour lui.
Oui.
Et puis j'espère vraiment qu'il va être vraiment dans une ouverture.
Oui.
Et qu'il va s'autoriser maintenant à être heureux aussi.
Voilà. Mmh. Ben oui,
parce que j'entends beaucoup d'autoprogrammation négative. Ça ne marchera pas, j'y arriverai pas, je ne rencontrerai personne.
Voilà.
Attention à ça aussi, parce que finalement, oui, oui. On se programme tout seul. Hein.
Oui, et oui. C'est ce que je lui dis. Mais bon.
Qu'il mette un peu de positif dans son esprit.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Et oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
Avec plaisir, Daniel.
Embrassez
Christophe pour moi et dites-lui que oui. Je lui promets qu'on fera le relais si on a des coups de fil.
C'est bien gentil. Oui, vous avez mon numéro de toute façon.
Est-ce qu'on peut garder votre numéro alors?
Oui, tout à fait.
Parce que normalement, vous savez que c'est très exceptionnel puisqu'on ne garde les numéros que 24 heures après un passage d'antenne.
Ah d'accord. Ou alors je vous donne son portable?
Bon, on va faire après. Ça. Je vais vous repasser Théo ou Estelle.
D'accord.
Et vous allez régler ça avec eux, ça sera plus simple, effectivement.
Oui, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Daniel.
Au revoir.
Au revoir.